VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 13 mars 2020. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Alberton.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, la commission électorale propose le 22 mars pour le référendum et les législatives reportées le 1er mars dernier.
En Côte d'Ivoire, l'opposition menace de boycotter la présidentielle d'octobre sans réforme au préalable de la commission électorale.
Le Sénégal a confirmé hier 5 nouveaux cas de coronavirus, le Gabon un premier cas, le Ghana 2 cas et l'Algérie 2 morts.
Au Soudan du Sud, l'épouse de Riek Machar, rival du président Salva Kiir, nommée ministre de la Défense, la première femme à occuper ce poste dans ce pays.
En Irak, l'armée américaine frappe une milice pro-Iran après la mort de 2 Américains dans une attaque à la roquette.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Guinée, la commission électorale a choisi le dimanche 22 mars pour la tenue d'un référendum constitutionnel couplé à des législatives, initialement prévues le 1er mars. La Cour constitutionnelle doit cependant valider ce nouveau calendrier électoral. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Salif Kebe, avait proposé discrètement que le scrutin ait lieu le 15 mars, mais la Cour suprême a rejeté sa requête selon un arrêt de la haute juridiction consulté hier par l'AFP. La Commission électorale s'est à nouveau réunie et a entériné la date du 22 mars pour la tenue du double scrutin législatif et référendaire, a déclaré le porte-parole de la CENI, Ali Bokar Samoura. Mais il faut attendre qu'on la soumette à la Cour constitutionnelle et que le président de la République prenne un décret pour qu'elle soit diffusée officiellement, a ajouté une source de la CENI. Le pouvoir a reporté ses consultations au dernier moment dans un contexte de forte tension, de vive contestation de l'opposition et de critiques émanant de la communauté internationale. La Guinée est en proie depuis octobre à des manifestations contre l'intention prêtée à Alpha Condé de briguer un troisième mandat fin 2020. Au moins 31 civils et un gendarme ont été tués depuis.
En Côte d'Ivoire, l'opposition a menacé hier de boycotter l'élection présidentielle d'octobre si la commission électorale qu'elle juge partiale n'est pas réformée avant le scrutin. Les précisions de John Linden.
Nous avons la ferme détermination de participer aux différents scrutins présidentiels et législatifs prévus par la Constitution. Cependant, les partis, organisations et groupements politiques de l'opposition ne participeront à aucun scrutin avec l'actuelle commission électorale indépendante, a déclaré Henri Niava, président de l'USD. C'était lors d'une conférence de presse réunissant les principaux partis d'opposition ivoiriens. La commission électorale indépendante ivoirienne a été réformée en juillet 2019 sur injonction de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais l'opposition juge qu'elle reste inféodée au pouvoir du président Alassane Ouattara. L'opposition a déposé une nouvelle requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme qui a tenu une audience jeudi sur cette affaire. Sa décision est attendue fin mars. Le numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, Maurice Kakou-Guikwe, a tempéré la menace, se disant assuré que la CEI va changer. Le climat politique est devenu tendu en Côte d'Ivoire à 7 mois de la présidentielle, qui se tiendra 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts. Les élections municipales et régionales de 2018 ont été marquées par de nombreuses violences et des fraudes.
Au Niger, 9 soldats nigériens ont été tués jeudi dans une attaque à Ayoru, près de la frontière malienne, à 200 kilomètres au nord-ouest de Niamey. Cette attaque a été perpétrée par des assaillants à moto qui ont été ensuite neutralisés par une frappe aérienne, grâce notamment à l'intervention de la force française Barkhane, selon des sources concordantes. Les assaillants visaient une position des forces de défense et de sécurité à Ayoru, située dans la région très instable de Tillaberi, théâtre d'attaques djihadistes fréquentes et meurtrière.
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a dévoilé jeudi les noms des ministres clés du gouvernement d'union nationale formé avec son rival Riek Machar, devenu premier vice-président. Un tel gouvernement vise à instaurer la paix dans ce pays déchiré par une guerre civile dévastatrice. Parmi les personnes nommées, l'épouse de Riek Machar, Angelina Teny, qui devient ministre de la Défense. Elle est la première femme à occuper ce poste au Soudan du Sud.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'épidémie du nouveau coronavirus continue de se propager dans le monde. 131 460 cas ont été recensés dans 116 pays et territoires, causant la mort de 4 923 personnes, selon un bilan établi par l'AFP. Ici, aux États-Unis, la barre des 1300 cas d'infection a été dépassée jeudi et 38 personnes sont mortes du coronavirus, selon l'université américaine Johns Hopkins. Sophie Grégoire Trudeau, la femme du premier ministre du Canada, a été testée positive jeudi et sera en quarantaine pour une durée indéterminée, tandis que Justin Trudeau restera à l'isolement pendant 2 semaines.
Au Sénégal, où 5 nouveaux cas ont été confirmés hier, le président Macky Sall a exhorté jeudi soir les pays africains à combattre de concert le coronavirus pour éviter que le continent ne devienne le nouveau foyer de la maladie. Son pays est le plus touché d'Afrique de l'Ouest, avec 10 personnes atteintes, dont 2 ont été déclarées guéries.
Ces personnes sont arrivées de France, d'Italie et du Royaume-Uni. L'inquiétude est palpable et d'autant plus grande que les 6 derniers cas sont apparus à Touba, une ville de quelque 1,5 million d'habitants, considérée comme l'un des plus importants foyers religieux du pays. Quelques 70 personnes ayant été en contact avec les patients sont actuellement recherchées, selon le ministère de la Santé.
Ailleurs en Afrique, 2 morts ont été signalées en Algérie. Un premier cas a été annoncé jeudi au Gabon. Un Gabonais de 27 ans revenant de Bordeaux en France et 2 cas de coronavirus ont été recensés au Ghana. Selon les autorités sanitaires ghanéennes, ces 2 personnes étaient arrivées de Norvège et de Turquie. Pendant ce temps, de nombreux pays du monde ont annoncé la fermeture des écoles et universités pour essayer de contenir le virus. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
L'Algérie a enregistré hier ses 2 premiers décès dus au nouveau coronavirus, a annoncé le ministère algérien de la Santé. Au Brésil, le chef de presse de Jair Bolsonaro est porteur du coronavirus. Il a côtoyé le président américain Donald Trump le week-end dernier et le président brésilien qui l'accompagnait aux États-Unis. Avec près de 3000 cas et 61 décès, la France fait partie des principaux foyers d'infection dans le monde. Le président Macron a annoncé la fermeture des crèches, écoles et universités pour contrer la plus grave crise sanitaire qu'ait connue le pays depuis un siècle. Les Italiens doivent rester chez eux jusqu'au 3 avril. Ils peuvent néanmoins sortir pour travailler, se faire soigner ou acheter à manger. Tous les commerces, autres qu'alimentaires ou liés à la santé, ont été fermés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fermé écoles et universités et il a appelé à la formation immédiate d'un gouvernement d'urgence d'union nationale. Le patron de l'OMS a, lui, tenté de rassurer en affirmant que cette pandémie était maîtrisable.
En Irak, l'armée américaine a frappé dans la nuit de jeudi à vendredi 5 positions des brigades du Hezbollah, l'une des factions pro-iraniennes les plus radicales du pays. C'était en représailles à la mort de 2 militaires américains et d'une militaire britannique dans une attaque à la roquette mercredi en début de soirée contre une base de la coalition internationale en Irak.
L'Union européenne et la Grèce ont annoncé hier à Athènes une aide financière pour inciter 5000 migrants vivant dans les camps surpeuplés des îles grecques à rentrer volontairement dans leur pays d'origine. Eric Manirakidza.
Il s'agit d'un programme temporaire de retour volontaire pour une période d'un mois. Ce programme sera accompagné d'une allocation de 2000 euros qui aidera à la réintégration des personnes dans leur pays d'origine. Pour la commissaire Notis Mitterachi, ce programme est un moyen de réduire la pression de la surpopulation dans les camps des îles grecques. Elle a précisé qu'il concerne jusqu'à 5000 personnes arrivées sur les îles grecques avant le 1er janvier. Ces retours volontaires seront réalisés avec l'aide de l'Organisation internationale des migrations OIM et l'Agence européenne de contrôle des frontières Frontex. Le programme n'est pas valable pour les demandeurs d'asile qui sont récemment arrivés en Grèce. L'Union européenne et la Grèce ont annoncé la tenue en mai en Grèce d'une conférence sur les enfants non accompagnés qui se trouvent dans les camps grecs. Sept pays membres de l'Union européenne ont déjà annoncé la possibilité de loger au moins 1600 enfants migrants vivant en Grèce. Plus de 37 000 personnes vivent dans des conditions sordides dans les camps de 5 îles grecques de la mer Égée, principale portée d'entrée de demandeurs d'asile en Europe en provenance des côtes proches turques.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minuteco, Nanit Talani.
La Libye a baissé son budget d'environ un tiers, le ramenant à 24,5 milliards d'euros au lieu de 35 milliards d'euros en raison du double choc que constitue le blocage de la production de pétrole et la chute des prix du baril. Nous faisons face à un blocus pétrolier et à la chute des prix accentuée par le nouveau coronavirus, a déclaré jeudi le ministre de l'économie Ali Al-Issaoui en marge d'une rencontre avec l'agence de coopération technique française Expertise France. La compagnie d'électricité sud-africaine Eskom a déclaré jeudi que les coupures de courant pouvant atteindre 4000 MW dureront jusqu'à vendredi dans l'attente de la reconnexion d'une unité de la centrale nucléaire de Coburg, la seule centrale nucléaire du pays. D'après Reuters, la société avait avant cela déclaré que ces délestages pourraient durer jusqu'à nouvel ordre. Eskom, qui produit plus de 90% de l'électricité sud-africaine, a augmenté mardi ses délestages à 4000 MW après une panne à Coburg. Pour terminer, le gouvernement égyptien cherche un soutien international et l'implication des tribunaux soudanais contre l'Éthiopie dans le but d'empêcher ce pays de commencer le remplissage du réservoir de son grand barrage de la Renaissance avant qu'un accord final sur les règles de remplissage et de fonctionnement ne soit atteint. Reuters écrit que l'Égypte pourrait demander à des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis d'arrêter ou de suspendre leurs investissements en Éthiopie.
L'espoir à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La CAF maintient toutes ses compétitions malgré la propagation du Covid-19.
Oui, l'instance africaine du football a indiqué dans un communiqué qu'elle suit de très près l'évolution du coronavirus à travers le monde et sur le continent. La CAF a affirmé qu'au regard du fait qu'aucun pays africain jusqu'à ce jour n'a été déclaré à haut risque, elle maintient la programmation de toutes ses compétitions. La CAF dit respecter les mesures de restriction prises par certains pays membres avec lesquels elle est en contact pour trouver des solutions au cas par cas, pouvant aller jusqu'à l'organisation de matchs à huis clos. S'agissant du CHAN 2020, une visite d'inspection de la commission médicale de la CAF est prévue les 14 et 15 mars au Cameroun. La compétition est maintenue aux dates prévues du 4 au 25 avril prochain.
Le début des éliminatoires sud-américains au Mondial 2022 reporté.
Oui, la FIFA a annoncé que les matchs des éliminatoires du Mondial 2022 dans la zone Amérique du Sud sont reportés à une date qui reste à définir. La raison, la propagation de la pandémie de coronavirus. Ces éliminatoires devaient commencer avec une première journée prévue du 26 au 28 mars, avec à l'affiche entre autres Argentine, Équateur ou encore Brésil, Bolivie.
Le premier joueur NBA atteint par le coronavirus présente ses excuses.
Je souhaiterais m'excuser publiquement auprès des gens que je pourrais avoir mis en danger. Je ne pensais vraiment pas être porteur de cette pathologie. J'ai manqué le discernement et le reconnais, a écrit Rudy Gobert, joueur du Utah Jazz, lundi, 48 heures avant l'annonce de son test positif au Covid-19. Le basketteur français a fait une blague à la fin d'une conférence de presse après avoir répondu à une question sur l'épidémie. Il s'est levé et a touché de ses mains les micros et enregistreurs posés sur la table avant de quitter la salle. L'enregistrement vidéo de cette séquence a fait le tour du monde et généré de vives critiques à son endroit. Dans la foulée, son coéquipier au Jazz, Donovan Mitchell, a confirmé avoir également été testé positif au coronavirus. devenant le deuxième joueur de la NBA à en être atteint.
La flamme olympique allumée sans spectateurs.
Oui, sur le site des premiers Jeux olympiques de l'Antiquité à l'Olympie, l'actrice Santi Georgiou a allumé la flamme olympique pour les JO de Tokyo de manière traditionnelle grâce aux rayons du soleil. Seul hic, pas de spectateurs à cause du coronavirus. Pour la première fois de l'histoire, une femme a débuté le relais de la flamme olympique. Il s'agit d'Anna Korakaki, championne olympique de tir au pistolet. La flamme sera acheminée jusqu'au Japon pour la cérémonie d'ouverture des Jeux à Tokyo le 24 juillet. Face aux doutes émis sur l'opportunité de maintenir les JO à cause du coronavirus, la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a jugé une annulation impensable.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, la commission électorale a donc choisi le dimanche 22 mars pour la tenue d'un référendum constitutionnel couplé à des législatives initialement prévues le 1er mars. Cette nouvelle date doit être maintenant soumise à la Cour constitutionnelle et le président Alpha Condé devra donc prendre un décret pour qu'elle soit diffusée officiellement. L'attente pour une nouvelle date officielle du double scrutin se poursuit donc. De Conakry, des réactions avec notre correspondant Zakaria Camara.
Des réactions à Conakry après la publication des conclusions de la mission d'experts de la CEDEAO. D'abord, la Commission électorale nationale indépendante qui dit avoir adopté mercredi l'ensemble des recommandations de la mission d'audit. Le boson Sidia Touré qui a reçu à Conakry le même jour le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest semblait peu rassuré par la mission d'audit de la CEDEAO.
Trois personnes peuvent arriver de la CEDEAO et qu'en 10 jours, ils vont venir dire le contraire. Donc, j'estime que tout ce qu'on est en train de phosphorer au niveau de ces trois experts, ça n'a aucun sens. L'audit du fichier, on le connaît.
Le diplomate onusien qui continue de consulter différents acteurs politiques guinéens plaide pour des élections inclusives et transparentes. Ibn Chambas.
Ce report pourrait constituer une opportunité pour les acteurs politiques en vue de la recherche des solutions consensuelles pour des scrutins apaisés et participatifs. J'ai réaffirmé l'engagement des Nations Unies à accompagner les efforts de la Guinée pour trouver des solutions consensuelles à la crise actuelle.
La mission express de la CEDEAO recommande entre autres le retrait du fichier électoral de plus de 2 400 000 électeurs, des électeurs dont les documents administratifs ne sont pas archivés. Patrice Camara du RPG arc-en-ciel parti au pouvoir ne cache pas sa satisfaction.
Les experts de la CEDEAO que nous saluons ici et dont nous remercions la célérité dans le travail, ont identifié ce problème et sur la base des pièces justificatives réelles ou fictives qui apparaissent, ont simplement demandé d'écraser ce quota-là, peut-être ultérieurement, sur la base d'une prochaine révision, que ces intéressés soient appelés pour qu'ils puissent être pris en compte.
Après l'audit de la mission de la CEDEAO, les Guinéens attendent une nouvelle date des élections. Pour Ibrahima Diallo, candidat aux législatives de Adepubok, il est temps de mettre fin à la série de reports.
Je ne suis pas d'accord avec la CENIEF, elle est incompétente de ça. Au niveau du comité de suivi, ce comité n'a jamais fait son travail. Donc c'est une responsabilité des deux, y compris l'OIF même. On ne sait pas maintenant, c'est aujourd'hui, c'est demain, et je sais que nous nous imposons maintenant pour que la date soit fixée. C'est pour que nous demandons l'organisation des élections.
D'autres voix se sont fait entendre pour réclamer la séparation des législatives du référendum constitutionnel. C'est une position que défend le CNOX DDG, une organisation de la société civile guinéenne qui estime que la proposition d'organiser le référendum constitutionnel n'est pas de nature à calmer la situation politique très tendue en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Pour rappel, la commission électorale a choisi le dimanche 22 mars pour la tenue de ce double scrutin et la Cour constitutionnelle doit encore valider ce nouveau calendrier électoral avant que le président Condé ne prenne un décret pour que cette date soit diffusée officiellement.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Tchad, le MPS, Mouvement Patriotique du Salut, parti au pouvoir, a célébré le 11 mars dernier son 30e anniversaire. La cérémonie commémorative s'est déroulée à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, une province située à plus de 500 kilomètres de la capitale. Une occasion pour les responsables du parti de faire le bilan de leur gestion. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de Niamena.
Qui aurait pu imaginer que le 11 mars 1990 est la date salvatrice pour enclencher la libération totale du peuple tchadien de la dictature la plus implacable de l'Afrique?
Paul Mbaynodoum, gouverneur de la province du Guéra, il vante le mérite de quelques compatriotes réunis autour d'Idriss Déby, alors colonel de l'armée, pour lancer l'assaut contre le pouvoir de l'époque.
Il a fallu des hommes de grand courage pour qu'en moins de 9 mois, le vent de la liberté et de la démocratie souffle le 1er décembre 1990.
Fondé à Bamina en mars 1990, le fondateur de ce mouvement politico-militaire transformé en un parti politique qui se targue d'être le père de la démocratie affirme à qui veulent entendre qu'ils ne sont pas venus au pouvoir par le biais de l'Afrique.
Le serment de Bamina nous tient à cœur et nous ne le trahirons jamais. Ce serment qui nous a unifiés et a fait notre force pour la victoire, n'en déplaise aux énergumènes et autres trafiquants de religion.
Jimmy Gamarga, membre fondateur du MPS, en 30 ans de règne, le bilan est positif, estime le numéro 2 de la dite formation politique, Mohamed Zenbada. Pour lui, son parti est un modèle dans le monde.
Le MPS, fondé dans la douleur, a continué son chemin et a donné la liberté et la démocratie au peuple tchadien. Aucun parti politique au monde n'a fait ce que le MPS a fait. Le MPS s'est ouvert dès le début à toutes les personnes, même qui ne sont pas du MPS, à participer dans les différents gouvernements. Ça fait 30 ans que le MPS est au pouvoir. Le bilan, il est satisfaisant pour tout le monde.
L'opposition tchadienne qualifie la déclaration du secrétaire général du MPS de tendancieuse et lui accorde le bénéfice du doute. Aladoum Balthazar Diarma dirige le parti Action Socialiste Tchadienne pour le Renouveau.
C'est tendancieux parce que dire que le MPS dépasse tous les partis du monde alors que nous voyons bien ce que vivent le commun des Tchadiens. Associer les hommes, oui, mais est-ce que c'est associer le peuple de qui ils tirent la légitimité? En tenant ce langage, le EG du MPS se rappelle de leur fameuse démocratie consensuelle et participative où c'était la même équipe après les petits bruits autour d'un de l'accord du 13 août, c'était un partage de gâteau. Mais nous disons bien que depuis pratiquement une décennie, aucun opposant n'est associé. Ça dépend de qui apprécie quoi, parce que les partis du monde, on en connaît. Chaque pays en a une centaine, le Tchad en a 200, mais est-ce que le MPS peut déjà se dire qu'il est le meilleur même de 200? Je ne crois pas.
C'est également une occasion pour les militants du parti au pouvoir de se donner des consignes afin de remporter des élections locales et législatives, mais aussi et surtout présidentielles de 2021. André Kodmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Centrafrique, un calme précaire s'est installé à Ndélé, dans le nord du pays, après les affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu ces derniers jours entre le FPRC à majorité Goula et les Runga soutenus par le MLPJ. Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible, mais on parle de dizaines de morts, parmi lesquels un militaire de la MINUSCA, ainsi que de nombreux blessés. Plusieurs maisons ont été incendiées. Au micro de Félix Yepassis Zembrou, Mathurin Momé du quotidien Le Confident nous fait le point.
Il faut d'abord remonter à l'origine même de ces affrontements intercommunautaires entre les Runga d'une part, qui sont majoritaires dans le FPRC, et les Goula aussi, qui sont minoritaires. Pour les Goula, Abdoulaye Hissène, il est Nirunga, et Nourdine Adam, d'origine soudanaise darfourien, mais qui a été adopté. Et ils ont récupéré le FPRC pour s'enrichir et détourner même le FPRC, dont le président est Michel Dokoudia, de sa vocation consiste à faire la paix maintenant. Eux, ils veulent continuer la guerre parce que si la paix revient, la justice risque de les rattraper. Pour preuve, ils continuent à recruter et à importer des armes. Et les Goula ne veulent rien savoir de leur démarche. Pour les Goula, ils sont contre l'invasion des mercenaires étrangers que les Runga utilisent.
On sait que les Runga sont soutenus par le FPRC et les Goula sont soutenus par quel groupe armé?
Dans le FPRC, par exemple, vous trouverez les Runga majoritaires et les Goula. Les Goula sont majoritaires dans le RPRC dirigé par Jono Abba.
Quelle est l'autre branche armée qui combat le FPRC, Andélé?
Andélé, le groupe armé qui combattait le FPRC, c'est le MLCJ, qui compte majoritairement les Kara, les autochtones de Birao. Parce qu'ils estiment que le FPRC n'est pas autochtone de Birao. Et puis le FPRC lutte pour les dominer sur leur propre terrain. Ces Kara-là sont mécontents. Ils disent qu'ils veulent que la paix revienne. Pour la paix, il faut combattre Abdoulaye Hissène, qui est le chef, en quelque sorte, comme le chef d'état-major.
Peut-on avoir une idée du bilan des affrontements de ces derniers temps?
Le bilan. Quand on appelle, les gens disent qu'ils continuent de retrouver des cadavres. C'est pas facile parce que eux-mêmes, ils sont en insécurité. Parce qu'à tout moment, ça peut crépiter. C'est vrai qu'il y a un calme relatif, mais qu'il y a de l'électricité dans l'air. Au moment où on échange avec eux au téléphone.
On peut retenir qu'en ce moment, il y a une légère accalmie, un délai.
Il y a un calme relatif. Même le sultan de Birao est à Bangui pour demander à ce que les autorités centrafricaines envoient un effectif en renfort pour soutenir les facteurs qui sont déjà là-bas sur le terrain.
Du côté de la ministre, il y a eu mort d'homme.
On a retrouvé le corps d'un employé de la ministre qui anime l'antenne de la ministre de Ndélé. Et même les belligérants ont monté la population contre la MINUSCA. Il a fallu beaucoup de sensibilisation pour qu'ils reviennent au bon sentiment.
C'était Mathurin Momé, directeur de publication du quotidien Le Confident.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En Angola, Moussaka Fernanda est une agricultrice qui travaille la terre pour nourrir sa famille, mais avec les effets du changement climatique et l'absence de son mari, il est de plus en plus difficile pour elle de subvenir aux besoins de ses enfants. Portrait d'une femme battante avec Blanche Sanou.
La sécheresse, les pluies torrentielles et les graves inondations ont dévasté les terres agricoles du sud de l'Angola depuis une décennie. C'est une année de vache maigre pour Moussaka Fernanda qui a du mal à voir le bout du tunnel.
Nous attendions la pluie depuis 6 mois. Avant cela, nous avons eu l'hiver. Quand les pluies sont arrivées, nous avons été soulagés. Mais malheureusement, elles étaient trop fortes. À présent, nous n'avons aucun moyen de nous occuper de nos cultures. Nous n'avons même pas pu aller dans les champs.
Moussaka est seule à nourrir ses 9 enfants. Le climat n'étant pas clément, son mari a décidé d'aller chercher du travail en ville.
Il est parti à cause de la faim. Il fut un temps où il achetait de la nourriture pour les enfants. Il avait un travail saisonnier, mais quand la faim s'est aggravée, il a décidé de partir.
Le changement climatique a des conséquences sur la vie des mères et celle de leurs enfants.
En raison de la séparation ou de l'abandon des familles, nous trouvons beaucoup de familles monoparentales. Ce sont donc les filles qui finissent par aider leur mère d'une manière ou d'une autre. Elles sont donc susceptibles d'arrêter leurs études car elles doivent d'abord subvenir aux besoins de base de la famille.
Les deux filles aînées de Moussaka ont abandonné l'école pour participer aux travaux ménagers. Mais lorsque son aînée est tombée enceinte, sa mère lui a demandé de déménager et de vivre avec le père de l'enfant.
Ma mère m'a dit, tu dois te marier parce que tu ne peux pas m'encombrer avec ça. Je me bats déjà assez avec vous tous, je ne peux pas souffrir davantage avec toi, ton bébé et ton petit ami.
Ce fut une décision difficile, mais Moussaka avait peu d'alternatives. Selon un rapport d'Amnesty International, des dizaines de milliers d'agriculteurs angolais ont été chassés de leurs terres pour faire place à des ranchs de bétail commerciaux. Près de 45 millions de personnes sont confrontées à la famine en Afrique australe.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.